Militaire, espion, homme de main de l'État français, Philippe Rondeau est un de ceux dont la carrière a été extrêmement riche et féconde. On le connaît pour des affaires politico-médiatiques qui ont un petit peu terni sa fin de vie, l'affaire Clearstream, mais au-delà de ces éléments de la fin de ces années, début des années 2000, fin des années 1990, eh bien Philippe Rondeau a eu une carrière extrêmement riche, extrêmement large, que nous allons essayer d'esquisser au cours de cette émission avec mon invité, Étienne Augry. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venu à notre micro. Vous êtes professeur d'histoire et géographie. Vous collaborez à la revue L'Éléphant et vous venez de publier une biographie de Philippe Rondeau, Philippe Rondeau, maître espion, qui est paru aux éditions Nouveau Monde. Alors, Philippe Rondeau est un militaire, lui-même fils de militaire. Il est né en 1936 et décédé en 2017. Comment fait-on pour écrire une biographie sur un espion? Donc on va voir sa carrière qui est extrêmement riche. Un historien travaille sur des sources et on se dit qu'a priori un espion, un membre du SDES, un membre de la DST laisse peu de sources, laisse peu d'éléments. Donc de quel matériau avez-vous disposé pour pouvoir rédiger cette biographie?
Alors c'est effectivement le défi qui s'est posé à moi assez rapidement, mais en même temps ce défi a pu être un peu facilité par quelque chose qui est peut-être connu de vos auditeurs, c'est que Philippe Rondeau avait pour habitude, en tout cas dans la deuxième partie de sa vie, de prendre en note tout ce qu'il faisait dans des fameux carnets ou journaux de marche comme il a pu les appeler, et que ces notes ont connu une certaine célébrité au moment de l'affaire Clearstream. Alors, on n'a pas forcément accès à tout ce qu'il a écrit, mais en tout cas, il a laissé des traces de ce côté-là qu'on peut nous utiliser. Alors après, évidemment, vous avez tout à fait raison. Enfin, les périodes peut-être où il touche le plus à la dimension secrète de l'histoire de la France, là, c'est évidemment plus compliqué parce que ces actions, en particulier à l'époque du CERF, enfin, juste précisément où il était au service action au SDEC, donc dans les années 60 et 70, évidemment, là, on a très peu d'informations, sinon par des témoignages. Et voilà, un des matériaux les plus importants que j'ai pu utiliser, ce sont des témoignages de personnes qui l'ont côtoyé à différentes étapes de sa vie. Et puis, on a aussi évidemment des éléments d'archives qui parfois ne sont pas accessibles parce qu'elles sont trop récentes et sans doute encore sensibles. Et puis, d'autres archives un peu plus anciennes, je pense en particulier à l'époque de la guerre d'Algérie ou alors d'une partie de son expérience au SDEC lorsqu'il était en poste en Roumanie entre 66 et 68. Et puis, pour cet aspect, j'ai eu la chance précisément d'avoir accès à son dossier dans les archives de la Securitate, ce qui m'a permis alors une fois traduit tout ça par les soins de personnes qui m'ont aidé, évidemment un dossier assez conséquent de plusieurs centaines de pages. Donc voilà un exemple aussi de documents que j'ai pu utiliser.
Alors, vous mentionnez son séjour en Roumanie, ces carnets qu'il écrit ont une finalité précise, c'est justement pour éviter un désagrément ou un problème qu'il a eu dans son épisode roumain où il n'a pas pu justifier d'une absence de plusieurs jours.
Tout à fait. Alors, en fait, cet événement que vous racontez, il se passe en 67. Et effectivement, il y a un trou dans son emploi du temps qui, sur le moment, ne pose pas de problème. Mais en 77, 10 ans plus tard, le SDEC, ou là, en tout cas les personnes qui au SDEC sont chargées de vérifier toutes ces choses-là, ben le mettent en cause et lui demandent des comptes, et il n'est pas en mesure précisément de donner des informations ou des explications sur ce qu'il a fait pendant cette disparition. Et c'est sans doute ce qu'il convainc, à partir donc de 77, de noter précisément, pour lui-même bien sûr, de noter précisément, heure par heure, tout ce qu'il fait, le contenu des entretiens qu'il a avec différentes personnes dans le cadre de ses fonctions. Donc c'est vrai que c'est un paradoxe qui rejoint la question que vous posiez tout à l'heure du fait qu'on a On a ici un officier de renseignement qui prend des notes, ce qui paraît assez peu logique. Mais ça s'explique effectivement par cet épisode de Bucarest qui l'a conduit à garder trace de tout ce qu'il a pu faire, dire et de toutes les personnes qu'il a pu rencontrer.
Alors, comme tous les militaires de sa génération, il a participé à la guerre d'Algérie. Là, il s'est rendu aussi régulièrement au Moyen-Orient. D'ailleurs, l'auteur de plusieurs ouvrages consacrés au Moyen-Orient, un ouvrage sur la Syrie, sur l'Irak, sur la Jordanie. C'est quelqu'un qui est un homme d'action et dans les services d'action. C'est aussi quelqu'un qui réfléchit, qui écrit, qui pense également les pays qu'il fréquente et les situations qu'il a pu connaître.
Oui, vous avez raison. Effectivement, il a eu une période de sa vie, alors pas la, disons, hein, une sorte de traversée du désert, si je puis dire, précisément après son expulsion des services extérieurs français, où il se consacre à une thèse en relations internationales, où il s'intéresse en particulier au traité de paix, et puis effectivement, il publie à ce moment-là sur, comme vous l'avez rappelé, sur les différents pays qu'il a où il a l'habitude de passer du temps. Effectivement, ce sont des travaux qui sont publiés. Alors après, évidemment, il cesse cette logique-là, puisque ça correspond plus tout à fait à ses obligations professionnelles.
Alors, un des épisodes fameux dans sa vie, c'est la question de Carlos, donc qui est un trafiquant de drogue, et il s'agit pour lui, donc d'abord il le traque, et ensuite, une fois qu'il a été repéré, il s'agit de l'exfiltrer, enfin de l'arrêter, pardon, mais là aussi, ça se fait pas aussi facilement, notamment parce qu'il reçoit des ordres pour arrêter cette arrestation.
Oui, alors Carlos, qui alors je vous parlais de trafic en drogue, je dirais plutôt que c'est le terroriste international qui s'inscrit d'abord dans la lutte des Palestiniens et puis petit à petit devient une sorte de mercenaire au service de différentes causes. Et donc en fait, effectivement, là vous faites référence à ce qui se passe dans les années 70. En fait, il y a plusieurs attentats commis en France par Carlos à une époque où il participe aux actions du FPLP, le Front Populaire de Libération de la Palestine. Et en 75, Carlos abat plusieurs personnes rue Toulier à Paris, des agents de la DST en particulier. Donc c'est à ce moment-là que Rondeau commence à s'intéresser à Carlos et à le rechercher un petit peu partout dans le monde. À l'époque où il est au SDEC, et c'est quelque chose qui est une des obsessions sans doute du patron de l'époque des services extérieurs, c'est Alexandre de Maranche, et sans doute Rondeau hérite de cette volonté-là, et qui va l'accompagner en fait dans chacune des centrales de renseignement pour lesquelles il va travailler, aussi bien les services extérieurs que la DST à partir de 82. Et effectivement, il y a un moment en 77 où il y a une opération qui est montée avec un autre agent assez connu aussi, Yvan de Linière, au Venezuela, à l'occasion d'un championnat du monde cycliste, Carlos et son père étant des grands fans de vélo. Il prévoit d'organiser quelque chose, d'attirer Carlos auprès de son père. Et le championnat du monde cycliste est un peu une couverture pour eux. Et puis finalement, c'est pas le bon moment, effectivement. Et il y a un feu rouge qui est donné par l'Élysée à ce moment-là. Donc on voit qu'il y a déjà des premières tentatives dans les années 70. Et puis par la suite, voilà, c'est Carlos, ça reste un objectif constant. Et on peut dire que pour ça, Philippe Rondeau a fait œuvre de patience, puisque l'arrestation elle-même se déroule seulement en 94.
Alors, vous mentionnez Carlos et Philippe Rondeau, donc travaille dans différents services. Il était au SDEC, il a été après la DST. Ça correspond aussi d'ailleurs à une évolution dans l'organisation des services eux-mêmes.
Pas forcément. C'est-à-dire qu'en fait, il se retrouve à la DST parce que il a été expulsé du SDEC. Et que, alors en 82, il y a un changement de majorité, puis on est dans une transformation du SDEC qui va devenir la DGSE, Effectivement, alors il tente de réintégrer à ce moment-là les services extérieurs. Il se heurte à un refus lié à son expulsion. Et c'est le moment où la DST s'intéresse à justement son expertise sur le Moyen-Orient, son expertise sur les questions de terrorisme. Et donc, en fait, il va à ce moment-là intégrer la direction de la surveillance du territoire, donc plutôt le contre-espionnage et en particulier toutes les questions du Moyen-Orient. Ce qui intéresse la DST de l'époque, c'est en particulier son carnet d'adresses et les nombreux liens, les nombreuses connexions qu'il a avec les services algériens, avec les services syriens, libanais en lien avec ceux-ci. Donc il a des contacts fréquents et très réguliers avec tous ces services-là qui intéressent la DST dans le cadre en particulier de la lutte contre le terrorisme.
Vous mentionnez la question des services secrets algériens. Il y a évidemment l'une des autres grandes affaires, c'est la question des moines de Tibérine. Nous sommes en 1996, donc ces moines qui ont été, enfin moines français, enlevés au monastère de Tibérine, qui sont retrouvés quelque temps plus tard assassinés. Et Philippe Rondeau, son rôle, c'est vraiment de négocier avec ceux qui l'avaient enlevé.
Alors, c'est déjà d'essayer de comprendre, d'identifier qui fait quoi,
Qui l'a enlevé, c'est ça? Est-ce que
voilà,
c'est
qui sont les
le
ravisseurs,
GIA ou l'armée algérienne?
qui tire les ficelles, et c'est là que ça devient très compliqué, en sachant que ce lien avec les services algériens, pour Rondeau, il est à la fois ancien et relativement personnel, mais c'est pas seulement Philippe Rondeau, c'est-à-dire que son supérieur à la DST qui est Raymond Nart, pareil, on a une proximité très forte dans les années 80 déjà, et puis dans ces années 90 entre la DST et les services algériens. Alors que les services algériens, et là on parle en particulier du DRS, qui est voilà, qui remplace, si vous voulez, la sécurité militaire algérienne, se méfie beaucoup de la DGSE, donc les services extérieurs. Donc Rondeau fait un peu l'interface, si vous voulez. À l'époque, il est à la DST. Il fait un peu l'interface entre la DST et les services algériens. Donc à la fois, il y a une proximité très grande et des relations sans doute personnelles importantes, mais une très forte dépendance à cette source unique de renseignement. Donc c'est très compliqué pour Rondeau dans cette période-là. Donc on parle de 1996. C'est très compliqué. Voilà, en 96, mais déjà au moment où l'armée cesse le processus électoral au début 92, c'est très compliqué pour lui de savoir véritablement ce qui se passe. Il est très conscient des manipulations que peuvent faire les services algériens, et il a du mal à mesurer le degré de manipulation, hein, et donc voilà, on peut bien sûr, alors ces questions-là ne sont sans doute pas complètement résolues, mais la question de qui enlève et qui manipule reste relativement incertaine de ce point de vue-là. En tout cas, ce qui est certain, et Rondeau lui-même le dira par la suite, c'est que ben il s'est fait un petit peu mener par le bout du nez par plus fort que lui, en l'occurrence les services algériens. Donc son rôle a Ben, en fait, c'est véritablement un échec, et puis et une grande amertume pour lui. On sent qu'il est très affecté par cette histoire, et que ben, il est affecté par le sort des moines et aussi par son incapacité à résoudre cette situation, à libérer les otages en question.
Est-ce que l'on a dans ces archives ou ces documents des éléments sur ces méthodes de travail, la façon dont il gère les relations avec ses supérieurs, avec également les hommes qui lui sont confiés? Est-ce qu'il y a des éléments qui transparaissent sur la manière de faire ce métier d'espion?
Alors, je dirais qu'il y a différentes époques, voilà, différentes périodes de sa vie et différentes institutions. Je pense qu'il faut clairement distinguer l'époque où il était au service action du SDEC, donc dans les années 60-70, où là, il est beaucoup dans l'action, et il est en grande harmonie avec ses supérieurs du service action, en particulier Alain de Marolles qui le dirige dans les années 70, et puis ses collaborateurs. Et là, sans doute, ce qui est son point fort à ce moment-là, c'est justement sa capacité à travailler en étroite collaboration avec une équipe relativement réduite pour monter une opération. Et puis ensuite, dans les années 80, lorsqu'il a la DST, je pense qu'il travaille relativement seul. Et ce qui compte pour ses supérieurs, c'est son expertise, sa capacité à la fois, enfin sa capacité à donner des réponses, voilà, face au terrorisme en particulier, dans un moment où on ne sait pas très bien qui commet des attentats, ou alors si on sait qui commet les attentats, on ne sait pas très bien qui est derrière. Donc voilà, c'est cette capacité-là. Et puis ensuite, il y a l'époque où il est plus proche du pouvoir et en particulier des ministres de la Défense, donc les trois ministres de la Défense pour lesquels il a été conseiller, donc Pierre Joxe d'abord, Alain Richard ensuite entre 97 et 2002, et puis il y a Michel Alliot-Marey. Donc dans cette période-là, je pense que tout en étant un petit peu dans un rôle de coordination des services de renseignement pour le ministre de la Défense, il est toujours présent sur le terrain. Et moi, ce qui m'a frappé dans sa manière de travailler, et ça, c'est bon, les documents le disent, mais c'est aussi ce que me disent les personnes que j'ai pu interroger, c'est que il passe pas forcément par la voie hiérarchique, si je puis dire. C'est-à-dire que quand il va travailler avec des personnes qui travaillent au sein de la direction du renseignement militaire, avec des personnes qui travaillent pour la DGSE, avec des personnes qui travaillent pour la DST, il est pas forcément, il s'adresse pas forcément aux dirigeants de ces différents services, mais il va, par exemple, je pense à ce qu'il fait en Bosnie ou en ex-Yougoslavie, il va travailler directement avec ceux qui sont sur le terrain, pareil, dans une relation très directe, qui parfois, et c'est comme ça que je le ressens, qui parfois va rentrer un petit peu, va mettre en tout cas ses interlocuteurs en porte-à-faux vis-à-vis de leur hiérarchie. C'est-à-dire que voilà, vous vous rendez compte, voilà, vous êtes officier de renseignement militaire ou extérieur en Bosnie, vous vous rendez compte à vos supérieurs, et puis là, vous avez quelqu'un qui se trouve un petit peu au-dessus de vos supérieurs et avec qui vous interagissez directement. Donc, à la fois, c'est très bien parce que ça rend les choses très efficaces et beaucoup plus rapide, finalement, dans le traitement du renseignement, mais voilà, ça a pu susciter éventuellement des petites rancœurs ou des jalousies de la part des personnes qui étaient potentiellement un petit peu court-circuitées.
Justement, ces rancœurs ou ces jalousies, est-ce que ça se manifeste aussi par des mises à l'écart ou par le fait qu'il aurait été un petit peu sorti des grandes affaires?
Pas forcément, parce que de fait, il est aussi dans un rôle de coordination, donc il y a finalement peu de choses qui vont lui échapper. Maintenant, on a effectivement des moments ou des situations où, par exemple, à la DGSE ou des personnes qui dirigent les différents services vont, en tout cas, le concevoir, peut-être pas le mettre en œuvre, mais se disent, bon, bah là, on n'a pas besoin de lui, il faudrait qu'on fasse sans lui. Sans pour autant que ça dure dans le temps et que ça ait un impact forcément voilà, durable dans leur manière d'agir, puisque de fait, ben, Rondeau est toujours en place alors qu'eux, peut-être vont évoluer dans leur fonction. Mais voilà, je pense pas que ça ait eu un impact concrètement sur le fait qu'il ait été mis de côté, puisque de fait, il était dans une position centrale. Là, je parle bien sûr des années, on va dire 97, 2000, 2005, 2006. Il est dans une position centrale où il a à la fois, bien sûr, ce rôle auprès du ministre de la Défense ou de la ministre de la Défense, et en même temps, il a une proximité assez forte avec l'Élysée, hein, avec Jacques Chirac dans ces années-là, et également avec Dominique de Villepin qui est jusqu'en 2002 secrétaire général de l'Élysée.
Alors, le titre que vous avez donné à votre ouvrage, c'est Maître espion. Le terme espion, c'est toujours un peu rêvé, où on imagine des choses secrètes. Est-ce que, dans le cas de Philippe Rondeau, il serait vraiment approprié, ou est-ce qu'on n'est pas plutôt dans du renseignement plus que dans de l'espionnage?
Oui, vous avez raison, effectivement. Je suis pas persuadé, par exemple, que lui-même revendiquerait ce titre. On a quelques écrits de sa part, bon, à usage un peu interne, en particulier dans les anciens de sa promotion de Saint-Cyr, il portait le nom de promotion Maréchal Bugeaud. Voilà, il dit effectivement, il se revendique comme officier de renseignement et pas forcément comme espion. Il dit effectivement, ce sont les termes qu'il emploie. Donc après. Voilà, je pense que le terme officier de renseignement, peut-être pour le grand public, ne veut pas dire grand-chose, ou en tout cas ne veut pas dire la même chose. Peut-être que le terme espion lui-même parle davantage. Et en même temps, ce que j'ai vu de son parcours, c'est que il fait bel et bien de l'espionnage quand il est en poste, quand il prépare une opération pour le service action du SDEC, quand il est en poste en Roumanie, c'est bel et bien de l'espionnage, hein, dans le sens où il fait de l'observation, il essaye de rencontrer des interlocuteurs, de les faire parler. On est bien évidemment dans ce type d'action.
Qu'est-ce que Philippe Rondeau nous dit aussi de son époque et des évolutions qu'il a connues tout au long de sa carrière? Il a commencé époque de guerre froide, il termine sa carrière en 2005 sous Jacques Chirac. En quoi sa vie est-elle un révélateur des évolutions de la place de la France dans le monde et des évolutions internationales?
Et effectivement, ce qui est intéressant avec son parcours, c'est que, alors c'est une vie, c'est une tranche de vie, et c'est une biographie que j'ai écrite, mais en même temps, effectivement, on voit toutes ces évolutions et ce qu'il a connu, ce qu'il a pu constater lui-même, en particulier sur les terrains qu'il connaissait très bien et le Moyen-Orient. Et on voit bien, en particulier, la manière dont le terrorisme, dont la question du terrorisme évolue entre les années 70, où on a un terrorisme qui peut se dérouler éventuellement sur le territoire français, mais qui ne touche pas directement les Français. Et puis, on arrive dans les années 80 à un terrorisme peut-être davantage d'État, en particulier avec la Syrie, l'Iran, où là, la France est menacée. Là, voilà, à partir de, je sais pas, en particulier de l'attentat de la rue Copernic, de la rue des Rosiers, et puis les attentats de 85-86, donc. En particulier ceux commis par Abou Nidal. Voilà, on voit un changement dans ces logiques-là. Et puis, finalement, à la toute fin de son parcours, même si là, pour le coup, il est plus, peut-être qu'il est moins à l'aise justement avec ces logiques-là, on voit le développement du terrorisme dans le cadre d'Al-Qaïda en particulier, le djihadisme, le salafisme djihadisme avec un autre fonctionnement. Et peut-être que lui-même, justement, avait moins l'habitude de ce type de terrorisme. Donc ça, là, je vous réponds simplement sur la question du terrorisme. Maintenant, on voit aussi, effectivement, que lui, il traverse ces évolutions-là, puisqu'il commence par la... Enfin, il rentre, enfin, à l'âge adulte, il devient officier en Algérie. Donc il arrive en même temps très tard dans cette guerre d'Algérie et toute cette. Enfin, moi, un aspect qui m'a intéressé aussi, c'est le sort de cette promotion Bugeaud, qui est la dernière promotion de Saint-Cyr à être envoyée en Algérie, à un moment donné où les choses sont déjà quasiment perdues, ou en tout cas le pouvoir politique a déjà commencé à évoluer. Et je trouve assez intéressant que justement cette promotion porte le nom. De celui qui a organisé la conquête de l'Algérie un siècle avant, une sorte de baroud d'honneur, on met en fait ces jeunes lieutenants ou sous-lieutenants dans une position très très inconfortable qui va créer un grand malaise parmi eux, par le type de combat qu'on leur demande de mener et la manière dont ça se passe sur le terrain. On sent beaucoup d'amertume chez les hommes de cette génération-là par
Merci.
rapport à la décolonisation. Oui.
Merci beaucoup, Étienne Augry, pour cette présentation de Philippe Rondeau, donc le titre de votre ouvrage, Philippe Rondeau, Maître espion, qui est paru aux éditions Nouveau Monde.